Bien. Bien, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi le professeur Michael Metzeltin, professeur à l'Université de Vienne, et c'est une des rares fois où il se passe sous mes patronages des choses sérieuses. C'est de la vraie, linguistique. Donc, c'est pour les connaisseurs. Et non seulement c'est de la vraie linguistique, mais c'est de la vraie philologie. Car M. Metzeltin couvre le champ de toutes les langues en même temps qu'il domine, il règne dans le ciel de la linguistique théorique. Il couvre le champ de toutes les langues parce qu'il est suisse, et suisse de Lugano par-dessus le marché, qu'il a fait ses études dans tous les endroits où on peut faire de bonnes études de philologie et dans toutes les langues, à Bâle, à Zurich, à Salamanque, à Coimbra, à Padoue, hein, tous les bons endroits. Et il a enseigné aussi dans tous les bons endroits, à Trèves, à Groningue, tout en haut de la Hollande, dans cet endroit si poétique et battu par une mer grise, comme dans bien des endroits, à Göttingen. Et il est aujourd'hui professeur de linguistique et de didactique des langues romanes à l'Université de Vienne, membre de la prestigieuse Académie des sciences d'Autriche, membre de très nombreuses académies, docteur honoris causa de très nombreuses universités, titulaire de décorations comme un maréchal soviétique, défunte Union soviétique. Et il est l'auteur d'une œuvre vraiment considérable à la fois en quantité et en importance, écrite en allemand et dans toutes les langues romanes, couvrant à la fois le domaine de la linguistique théorique et celui des différentes langues et de l'incarnation, si je puis dire, de la sémantique dans la lecture des textes. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rapport avec ce dont il va nous entretenir. Un point qui m'a frappé, bien que je l'avoue, j'ignorasse jusque-là ce travail qui est un des premiers, c'est qu'il a consacré un ouvrage à la terminologie du compas, à l'instrument maritime, pas la boussole des marins, hein, du Z-compass, en Italie et dans la péninsule ibérique. Et il est très remarquable, quand on est suisse et professeur à l'Université de Vienne, hein, de s'intéresser, c'est vraiment désintéressé, hein, de travailler sur un instrument qui ne sert pas un peu dans les pays qui n'ont pas de frontières maritimes. Mais il va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est à la fois très, très important, et important, je dois le dire, au Collège de France et en ce moment au Collège de France, où les questions de linguistique, d'orientation de la linguistique, de façon dont on doit aborder la linguistique, nous occupent particulièrement depuis le départ à la retraite de notre fougueux Claude Agège. Il va donc, son sujet s'intitule donc « De la sémantique structurale à la sémantique textuelle ». Et dans ce domaine de la sémantique, qui est donc quand même le point par lequel il se rattache à ma légèreté, c'est vraiment la question cruciale. Et je le remercie d'aborder cette question cruciale devant nous en lui donnant la parole. Mon cher Michael, c'est à toi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éloges. Trop vaste. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer en trois quarts d'heure d'expliquer à un public que je ne connais pas ce que pourrait être la sémantique en général. Comme je ne connais pas le public, je vais essayer d'être simple. Je vais essayer. Je ne sais pas si un professeur toujours y réussit, mais c'est notre profession aussi, d'expliquer des choses compliquées d'une façon, si possible, simple. On m'entend bien? Oui? D'abord, quelques prémices. Je trouve que la recherche scientifique consiste surtout dans la recherche de structures. Le chimiste, le physicien, le linguiste, nous tous, nous cherchons des structures. Et nous cherchons dans ces structures aussi une interprétation. Comme linguiste, comme textologue, j'invente ce mot, je ne sais pas s'il existe.
Tout existe.
Notre objet d'étude, de recherche, c'est la langue. Mais la langue n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des langues. Mais au fond, les langues n'existent pas non plus. Ce qui existe, ce sont des textes. Des textes écrits, des textes oraux, conversationnels. Mais ce qu'on peut voir, écouter, ce sont toujours des textes. Et c'est pour cela que je pense que le centre des linguistes, des critiques littéraires, des Literaturwissenschaftler, ce sont au fond les textes. Et déjà, les anciens grammairiens grecs qui avaient constitué, qui avaient fondé au fond notre grammaire occidentale, le faisaient en disant, en écrivant, en disant que la grammaire, aujourd'hui on dirait la linguistique, a comme but l'explication des textes, la production et la compréhension des textes. Moi, je reviens à cette idée. Et la base de la compréhension et de la production d'un texte est, au fond, la sémantique. La sémantique, qui peut être intuitive, nous tous, nous avons une sémantique intuitive, mais comme professeur, comme chercheur, comme scientifique, nous avons le devoir de configurer un métalangage, une structure, pour expliquer d'une façon explicite la sémantique d'un texte qu'on produit ou qu'on reçoit. Et c'est à cause de ça que depuis mon époque d'assistant à Bâle, j'ai toujours lutté un peu d'une façon quichotesque contre la séparation des disciplines. Ici, la linguistique, là-bas, la philologie, je ne sais pas où, la littérature, de notre côté, l'histoire de la civilisation. Mais on a besoin de toutes ces disciplines pour expliquer un texte ou pour produire un texte. À partir de ce moment, on peut suivre l'exemplier. Je suis professeur de linguistique officiellement. Mais qu'est-ce que ça signifie? La linguistique traditionnelle a certains domaines. Elle se limite à certains domaines. C'est le point 1 de l'exemplier. C'est la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la lexicologie ou la sémantique. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Quel est l'objet de ce type de linguistique traditionnelle? C'est au fond le mot. Et comme le disait Barthes dans une leçon, je crois, ici, à l'Institut de France, il le disait très bien, la linguistique s'arrête à la phrase. Mais il se demandait, la communication quand même fonctionne pas moyennant des phrases. Ce sont toujours des textes qu'on produit. La conversation aussi est faite de textes. Alors, la linguistique comme science devrait expliquer, selon moi, c'est une proposition, la compréhensibilité des textes. Et pour ce faire, la sémantique joue un rôle fondamental. Ce n'est pas la phonétique, ce n'est pas la lexicologie, ce n'est pas la morphologie qui joue le rôle principal, c'est la sémantique. Mais qu'est-ce que c'est que la sémantique ? D'une façon intuitive, mais juste, on peut parler de forme, de contenant et de contenu. Toutes les langues ont des formes, ont des contenants. Ces formes sont les sons, les mots, les phrases et les textes. On peut distinguer ces différents niveaux. Si on accepte ces différents niveaux, il faut prévoir probablement d'une façon explicite, d'une façon didactique et scientifique, une sémantique des sons, une sémantique des mots, une sémantique de la phrase et une sémantique des textes. Mais pour ce faire, il faut, j'avais dit, il faut inventer, configurer un métalangage. Le physicien a ses instruments pour examiner quelque chose. En chimie, on fait des expériments avec des substances. Le grand problème qu'on a, nous, les textologues, les philologues, les linguistes, c'est que notre instrument, c'est du nouveau la langue. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on crée une métalangue, un métalangage. Et là, il y a le grand problème de qu'est-ce que c'est que ce métalangage ? C'est la grammaire, probablement aussi. C'est la sémantique structurale de Grémas, ça probablement aussi. C'est l'analyse structurelle des textes de Roland Barthes, probablement aussi. Mais ça, c'est peut-être un mélange de trop de choses. Alors, selon moi, il faut avoir le courage de proposer un système plus ou moins cohérent. Et la base de ce système, s'il s'agit de la sémantique, la base doit être un système de concepts. Nous sommes au point 4 de l'exemplier. Jusqu'à maintenant, on a toujours créé des classes de mots, les substantifs, les adjectifs, etc. Ce qui est juste du point de vue morphosyntactique. Ce qui n'est pas juste du point sémantique. Il faut, selon moi, séparer la catégorisation des mots comme tels, du point de vue morphosyntactique, d'une catégorisation sémantique. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Si l'on accepte les études de Piaget, de Rubinstein et d'autres psychologues, je sais que tout de suite, on peut me reprocher, mais vous n'êtes plus dans la linguistique. Et je me dis, ça ne m'intéresse pas. On a besoin d'une conception de concept. On voit que nous tous, comme bébés, comme petits-enfants, nous apprenons la réalité par degrés, par degrés d'abstraction. Vous avez au point 4 une liste. C'est une liste que je n'ai pas inventée, mais que j'ai extraite des études de l'école de Piaget et de Rubinstein. Je cite ces deux pour indiquer, ça ne m'importe pas si la politique était de l'Ouest ou de l'Est, Piaget suisse, Rubinstein russe, mais ce sont des grands psychologues. Ils ont été des grands psychologues. Qui ont vraiment fait de la recherche fondamentale. Et on voit que nous tous, nous apprenons d'abord l'idée de quelque chose qu'on peut toucher, c'est l'idée d'objet. Quelques semaines plus tard, on distingue le fait que cet objet est noir, la qualité de noir n'existe pas. Elle existe seulement s'il y a un objet qui est noir. Alors, c'est une différence fondamentale entre objet et attribut, qualité qu'on attribue à un objet. Beaucoup plus tard, ça signifie en général quelques mois, on apprend la localisation des objets. Le saut suivant, c'est l'insertion de ces objets dans une chronologie. Il paraît que c'est un saut assez difficile à surmonter. Plus ou moins en même temps, on apprend les quantifications. 1, 2, 3, beaucoup, peu. Les identifications, celui-ci, celui-là. Ce qui est très difficile à apprendre, c'est ce que j'ai mis ici comme probabilité. Probabilité de quoi ? D'une combinaison que cette lampe est noire. Lampe, tu noire, oui, moi j'affirme que maintenant c'est vraiment comme ça. C'est la probabilité 100% que cette attribution est valable. Il y a une phrase assez connue de Chomsky, je ne la sais pas par cœur, mais les nuages verts sont je ne sais pas où. Moi, je peux affirmer que, selon moi, la probabilité que les nuages sont verts est de 100%. C'est-à-dire, cette probabilité est toujours subjective ou, dans le meilleur des cas, subjective. Si on accepte cette liste de concepts, on peut examiner les phrases qu'on constitue, qu'on forme, d'une façon systématique, en disant que notre manière de penser peut être explicitée dans toutes les cultures, mais peut-être, c'est une possibilité, pas une nécessité, toujours en cherchant l'objet duquel on parle, la qualité qu'on lui attribue, la localisation, la temporalisation, la quantification, l'identification et la probabilité de cette combinaison. C'est assez clair, je parle trop vite. Alors, on aurait là une première base de métalangage pour voir si, quand on a un texte, une phrase, une conversation, je peux extraire d'une façon explicite de quel objet on est en train de penser. Peut-être, quelquefois, je me dis, quand j'explique ces choses, ça me paraît très simple. Et quand je fais des exercices avec des étudiants, je vois que, quand je dis le vol des cigognes était très rapide, ils me disent « Oui, l'objet principal, c'est le vol. » Et moi, je dis « Oui, mais voler, ce n'est pas un objet. Voler, c'est une qualité. L'objet, ce sont les cigognes. » Alors, on a comme une première base de métalangage, une série de types de concepts. Maintenant, on va voir les quatre paliers, les quatre niveaux des contenants. La sémantique phonétique, le point 6. C'est un phénomène connu. Si je lis le vers de Vielle-et-Griffin, « La lente Loire passe altière et d'île en île », c'est un exemple assez connu. On sait que c'est une onomatopée, au fond. La répétition du « L », évidemment, indique cette fluence, l'eau qui coule, c'est-à-dire que le son comme tel a une fonction symbolique. Ce n'est pas, je crois, une sémantique très compliquée, paraît-il. Mais de nouveau, quand je fais des exercices avec des étudiants, je vois qu'aujourd'hui, en général, ils n'entendent pas ces sons. Enfin, ils lisent, c'est un L, oui, très bien. Ils ne reconnaissent pas, au fond, l'artificialité de l'emploi des sons isolés, isolés mais dans un contexte avec une sémantique. Alors, il faut là aussi avoir un certain exercice pour découvrir les ce qu'on dit en tradition, traditionnellement, des onomatopées. Vous voyez qu'ici, on est dans ce que Saussure disait, c'est au fond l'arbitraire du signe, parce que le L comme tel ne signifie rien. Mais je peux, dans un certain contexte, attribuer à un son tout seul une certaine signification si je le combine dans un vers. La sémantique lexicale est la sémantique la plus connue. On peut la faire d'une façon, on peut l'expliquer d'une façon très formalisée. Et là, on se retrouve dans la sémantique, par exemple, de Grémas. Moi, je trouve que quand même, les définitions qu'avait donné déjà Aristote est la méthode encore la meilleure pour ce niveau, pour le niveau lexical, c'est-à-dire le niveau du mot. Qu'est-ce que proposait Aristote, la grammaire médiévale aussi? La différence, ou au fond l'explication, l'analyse entre genus proximum et differentiae specificae, genre prochain et différence spécifique. C'est quelque chose que je crois aujourd'hui tout le monde, nous avons suivi des écoles, nous avons appris cette manière d'analyser le sens des mots en cherchant un hyperonyme et des hyponymes. Vous avez quelques exemples au point 7. Qu'est-ce que c'est qu'un château? C'est une demeure, genus proximum, féodale, fortifiée et défendue par un ensemble de fossés, differentiae specificae. Évidemment, si vous cherchez un peu dans la sémantique structurale déjà traditionnelle, vous trouverez toujours des exemples qui ont trait à des objets concrets. L'exemple classique, c'est le fauteuil, la chaise, etc. Seulement, il faut se demander, et là, c'est un peu plus compliqué, si cette explicitation, cette analyse en genre prochain et différents spécifiques est applicable aux autres types de concepts, aux concepts de qualité, de temps, de lieu, de probabilité. Ça va, mais c'est déjà un travail plus dur d'abstraction. Vous avez deux exemples au point 7. Qu'est-ce que c'est qu'une danse? J'ai pris ces définitions du petit Robert dans ce cas. C'est une suite de mouvements du corps, genus proximum, volontaires, rythmés le plus souvent au son de musique, ayant leur but en eux-mêmes et répondant à une esthétique. Ce sont les différences spécifiques. Si on passe à un mot plus abstrait comme contenu, ici, est-ce qu'on peut définir de cette façon un mot comme ici, un mot de relation? Oui, ça va aussi, même avec la définition du petit Robert. C'est le lieu, genus proximum, où se trouve la personne qui parle. C'est la différence spécifique. Toujours, je crois que vous l'avez noté, le L qui indique le coulement de la Loire, le château qui indique une demeure féodale, etc. Ici, le lieu où se trouve une personne, c'est toujours de la sémantique référentielle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une thèse que je propose aussi, une hypothèse si vous voulez. La sémantique est toujours référentielle. C'est-à-dire, pour comprendre quelque chose, quand même, je ne sais pas si dire nous tous, ou presque nous tous, nous avons besoin de voir cette sémantique dans la réalité. Si je parle d'un château, quand même, je dois m'imaginer quelque chose. Et pas seulement une chose fantastique, je dois la voir, je dois d'une certaine façon pouvoir la toucher. Si je parle du fluet d'un fleuve, j'imagine, je vois un fleuve. Si je parle d'une danse, je m'imagine quelques personnes qui dansent. Si je parle d'ici, c'est le lieu où je suis maintenant. C'est une sémantique toujours, si l'on veut ou pas, je crois, toujours référentielle. Je crois que ça vaut même pour les textes médiévaux. Même si c'est pour une époque passée ou pour une époque de l'avenir, pour la science-fiction. Ça va aussi. Elle est aussi très référentielle, au fond. Jusqu'ici, j'ai expliqué, au fond, ce que fait normalement la sémantique et traditionnelle et structurelle. Les grands problèmes se posent, comme l'avait vu déjà Roland Barthes, à partir de la phrase. Si la linguistique s'arrête à la phrase et au fond n'arrive pas bien même à la phrase, qui est-ce qui doit s'occuper du reste, de la phrase, du texte? Beaucoup de fois, pendant beaucoup de temps, au fond, on s'est limité à la sémantique du mot. On a laissé la sémantique de la phrase aux logiciens qui ont cherché les valeurs de vérité, si une phrase est vraie ou elle est fausse. Il y a l'autre logique modale qui permet de dire une phrase est vraie, elle est fausse ou elle est possible. Moi, j'ai généralisé cette idée en disant qu'une phrase a toujours une probabilité. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la sémantique du texte? Évidemment, elle existe déjà dans les textes d'Aristote, dans la rhétorique d'Aristote, dans la poétique d'Aristote, où il explique le contenu d'une tragédie, par exemple. Toute la poétique traditionnelle, la rhétorique traditionnelle, mais vous voyez, c'est un peu séparé. La linguistique, la grammaire ici s'occupe du mot, peut-être une partie de la phrase, et il y a une autre science, la rhétorique, la poétique, qui s'occupe du texte. Seulement, le Moyen-Âge avait très bien compris qu'on ne devait pas séparer ces parties. C'est pour ça qu'il y avait les arts libéraux, grammatica, rhetorica, dialectica. On apprenait la grammaire, la partie la plus simple, disons, mais c'était seulement la base pour apprendre après la rhétorique, c'est-à-dire la constitution, la production de textes, et après la dialectique pour pouvoir discuter, parce que la discussion consiste toujours en des textes. C'était bien conçu. Je suis peut-être maintenant trop médiévaliste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la sémantique de la phrase si on ne fait pas de la logique et on n'est plus sur le niveau du mot et on n'est pas encore sur le niveau du texte? Est-ce qu'il y a une sémantique entre les deux? Moi, je crois que oui, que c'est possible. Nous sommes au point 8, sémantique de la phrase. Est-ce que je peux expliquer, dans le sens de rendre tout à fait explicite, le contenu d'une phrase avec une configuration compréhensible et toujours la même? Je pense que oui. Je vous le montre avec cet exemple didactique inventé. Il faut distinguer très bien le niveau de la surface superficielle, qui est un niveau de syntaxe, d'un niveau du contenu. Les deux peuvent plus ou moins coïncider, mais ce sont deux niveaux différents. Quand je dis le vol des oiseaux est rapide ou les oiseaux volent rapidement, du point de vue sémantique, je dis exactement la même chose. Qu'est-ce que je dis au fond? Je formalise maintenant pour donner un petit exemple de formalisation. Si nous acceptons qu'on peut distinguer différents types de concepts, du plus concret au plus abstrait, de l'objet en passant par la qualité, la localisation, la temporalisation, la probabilité, etc., on peut analyser les phrases, et j'insiste, les phrases, le texte vient après, avec ce que la tradition avait déjà compris d'une certaine façon, surtout la logique de Port-Royal, que les propositions ne sont pas la même chose que les phrases. La proposition, c'est la manière de penser dans le cerveau. Les phrases, c'est l'expression, ce sont les expressions possibles de ces idées. Alors, du point de vue sémantique, qu'est-ce qu'on a? On a oiseau. Moi, j'imagine que je vois maintenant des oiseaux. Oui. C'est important aussi, la subjectivité. Oiseau, pluriel, déterminé, je les vois. Je leur attribue une qualité, voler. Et cette qualité a une quantification rapide, vite. Où? À Paris. Quand? Le 23 février. Et cette combinaison, pour moi, elle est vraie. Elle a une probabilité de 100%. Vous pouvez dire, moi, je ne vois aucun oiseau ici. Très bien, mais moi, je les vois. J'insiste que cette probabilité est toujours subjective et dans le meilleur des cas, elle est intersubjective. Et vous voyez que j'ai ajouté Metzeltin affirme au public. Avec cette méthode, on peut analyser, on peut extraire de la surface d'un texte. Pratiquement, je l'ai fait beaucoup de fois, seul, avec des étudiants, on peut extraire pratiquement tous les contenus présents dans le texte. On a besoin du contexte, toujours. La surface du texte peut être assez différente. Je peux dire le vol des oiseaux est très rapide, je peux dire les oiseaux volent rapidement. La différence est, comme on dit, je le dis seulement en passant, elle est pragmatique. Elle n'est pas du tout sémantique. Peut-être on peut en discuter parce que beaucoup de monde confond la pragmatique et la sémantique. Moi, je parle ici de sémantique. Je peux maintenant expliquer un peu mieux le point 8. Vous avez une formule. Les formules ne sont pas des formules de mathématiques. Ce sont au fond des symboles pour ne pas répéter toujours trop de mots. Mais ici, je le fais. Vous l'avez expliqué. Un émetteur communique à un récepteur, Metzeltin affirme à vous, qu'une certaine chose, un certain objet, oiseau, est une certaine qualité, volée, pour quelqu'un, dans ce cas le destinataire n'existe pas, dans un certain lieu, à Paris, à un moment donné, aujourd'hui. Ça paraît un système assez simple, mais de nouveau, je dois confirmer, les exercices avec les étudiants indiquent qu'il est difficile de trouver toujours ces structures. Et ces structures doivent être toujours les mêmes, sinon on ne peut pas les comparer. Vous avez maintenant un exemple d'analyse. J'ai mis pas les formules qui ne sont pas toujours agréables à lire. Je les ai mises en forme de phrase très simple et phrase principale. Si on prend le titre et les premières deux phrases de l'inutile beauté de Maupassant, vous avez le texte suivant, c'est toujours au point 8. La Victoria fort élégante, attelée de deux superbes chevaux noirs, attendait devant le perron de l'hôtel. C'était à la fin de juin, vers 5h30, et entre les toits qui enfermaient la cour d'honneur, le ciel apparaissait plein de clarté, de chaleur, de gaieté. Si j'essaie d'analyser, d'expliciter le contenu, j'arrive à cette liste que vous avez maintenant sous S1, S2, phrase, structure, sentence. L'aspect d'une certaine personne n'est pas utile. Cette personne est belle. La Victoria est fort élégante. Quelqu'un a attelé deux chevaux à la Victoria. Les chevaux sont superbes, les chevaux sont noirs. La Victoria attendait devant le perron de l'hôtel à la fin de juin vers 5h30. La cour d'honneur se trouvait entre des toits. Le ciel apparaissait entre les toits. Le ciel était plein de clarté, le ciel était plein de chaleur, le ciel était plein de gaieté. Maintenant, vous pouvez me dire, à quoi bon tout ça? C'est un texte horrible si on l'écrit de cette façon. Ça paraît un texte assez primitif. Moi, je dis que non. Je préfère dire que c'est une texture. Ce n'est pas le texte comme tel, c'est quelque chose qu'il y a derrière. C'est l'explication sémantique. Elle est non économique. Elle est non adéquate pour la communication et elle est non esthétique. Alors, à quoi bon cette analyse? Exactement pour montrer qu'il y a un grand décalage entre la sémantique que nous avons dans le cerveau quand nous communiquons et l'exigence ou les exigences d'économie, pas seulement l'économie des changements phonétiques de Martinet. Toute communication est toujours liée à des contraintes de communication. On n'a pas assez de temps, normalement. On ne veut pas trop dire. On veut tout dire, mais on dit « oui, mais ça, tu le sais déjà, tu le connais, tu as des connaissances encyclopédiques, etc. » C'est là le grand décalage entre ce qu'on veut dire et ce qu'on dit. Cette explicitation permet très bien de découvrir la manipulation. Nous tous, nous sommes manipulés et nous tous, nous manipulons. Si vous essayez de faire des analyses de ce genre, qui coûtent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on découvre assez vite la manipulation à laquelle nous sommes soumis par les politiciens, par exemple. Parce que le politicien, normalement, parle beaucoup, mais sa sémantique n'est pas trop développée. Et surtout, dans le cas des politiciens, on a encore affaire avec cette division. Vous voyez ici une partie qui est très sémantique, oiseau, voler, etc. Et quelqu'un qui affirme. Une certaine tradition médiévale reprise par Bali dans son traité, c'est un traité de linguistique générale et linguistique française, dit que c'est ici le dictum. Vous avez le mot sur l'exemplier. Et ici, c'est le modus. Parce que si on veut ou pas, nous tous, nous donnons toujours une perspective. Quand nous parlons, quand nous écrivons, nous sommes toujours là avec notre perspective. Il ne faut pas toujours dire « Maître Seltinket ici est en train de vous dire « Non, vous voyez que je suis en train de parler. » Les politiciens, si on fait les analyses du discours très moderne, on peut les faire très bien et on voit que les politiciens développent cette partie d'une façon très évidente et cette partie-ci, le contenu proprement dit, reste beaucoup de fois assez vide. On peut le démontrer très bien, un ancien élève l'a fait avec... Elle a fait une comparaison entre les discours de Hitler et de Franco. Hitler ou Goebbels était un bon rhétoricien. Franco ne savait pas très bien parler, mais il avait des gens qui écrivaient pour lui. Et on voit très bien que le modus est très développé. Nous voulons et nous affirmons, etc. Mais on regarde, oui, mais nous voulons quoi ? Et on voit que c'est assez vite, l'objet de la volonté. Alors, il y a ce décalage non économique, mais ce décalage permet exactement la manipulation. Non adéquat pour la communication. Non, parce que c'est trop long. Mais, moi, je m'embête quand dans une réunion de l'Académie des sciences, par exemple, on dit « oui, il faut discuter de choses très importantes ». Et tout de suite, après quelques minutes, quelqu'un se lève et dit « je propose seulement pour chacun 3 minutes de discussion ». En 3 minutes, on ne peut pas dire les choses principales. C'est-à-dire, pour la communication normal, Cette explication n'est pas adéquate. Mais elle est très adéquate pour discuter exactement des problèmes. Et dans ce cas, il faut insister, très bien, mais moi je ne suis pas d'accord avec les 3 minutes, parce qu'il faut expliciter les problèmes. Et évidemment, elle est non esthétique. Il y a un fameux texte de Góngora, de l'espagnol Góngora, le Polyphémo, qui est très difficile à lire. Alors, un grand philologue, Damas Alonso, a fait pratiquement la traduction de ce grand texte de la littérature espagnole et mondiale en le transformant plus ou moins de cette façon. Là aussi, on voit alors très bien, si on fait cette explicitation, qu'on voit l'esthéticité, on peut le dire, l'esthéticité d'un texte. On peut même, vous avez un petit texte à la page 2, toujours encore sous le point 8, un petit texte de Proust, c'est un texte très connu qu'on utilise aussi avec les étudiants, pour montrer que la grande artisticité de Proust consiste entre autres dans le fait qu'il utilise beaucoup de modus là où on s'attend au fond à une narration. Beaucoup de fois, le texte n'avance pas dans le sens de l'action. Pourquoi ? Parce qu'il utilise beaucoup de modus. Je les ai mis en italique. N'existait plus pour moi, voyant, je ne sais, appeler, la perspective, j'avais laissé, etc. En insistant sur le modus, il freine pratiquement la narration. Et on arrive à la sémantique textuelle. J'ai encore combien de temps ? Ah, je vois. Oui, alors, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que la sémantique textuelle ? Normalement, nous tous, nous parlons d'état de choses. En allemand, Sachverhalt, état de choses. Metzeltin parle ici. Le public est en train d'écouter. Ce sont des états de choses. Mais pour comprendre ces états de choses, il faut les mettre ou dans une narration, ou dans une description, ou dans une argumentation. Ce sont les 3 façons principales d'arranger les états de choses. Il y a des configurations pour ça, des configurations propositionnelles, sémantiques. J'en cite une, après on voit concrètement, on en voit une deuxième. Tout le monde, vous connaissez tous les syllogismes traditionnels qui nous arrivent d'Aristote. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, alors à cause de ça, il est mortel. Ce sont des configurations sémantiques, en fait, d'un état de choses. Probablement, la configuration la plus importante pour nous tous, c'est la narration d'état de choses qui fondamentalement passe d'un état de choses 1, désagréable, par une transformation, quelqu'un fait quelque chose, pour arriver à un état de choses 2, agréables. Mais cette personne qui se trouve dans l'état de choses désagréables doit avoir l'intention, la volonté d'en sortir. Et beaucoup de fois, elle a quelqu'un comme aide, qui l'aide à sortir de cette situation, et quelquefois, elle trouve des obstacles, des difficultés. Vous avez ici un schéma qui, apparemment, c'est un schéma qui se trouve chez Prop, chez Grémas, etc., mais non, ce n'est pas le schéma à eux. Le schéma à eux, c'est un schéma qui vient des contes de fées. On va le voir tout de suite après. Ce schéma, c'est un schéma transformatif, vous l'avez au point 10, un schéma tout à fait, on pourrait dire, banal, dans lequel nous nous trouvons tous les jours, parce que tous les jours, nous avons faim, il faut manger, il faut faire quelque chose, tous les jours, on a des problèmes à résoudre, c'est-à-dire, ce schéma, c'est un schéma d'action très réaliste, très réel. Et si on regarde, j'ai mis d'une façon très réduite, si on regarde le schéma de base d'un des romans les plus connus de la littérature mondiale, Madame Bovary de Flaubert, c'est un schéma de ce genre. Vous avez un premier schéma, Emma ennuyée à la campagne, elle voudrait être heureuse en ville. Elle épouse Charles, mais Charles est ennuyeux, difficulté. Elle se trouve heureuse, mais pas assez. Et ça se répète 4 fois. Et vous savez très bien que la fin est tragique. Mais c'est tout à fait une réalité. Et en fait, si on lit les critiques littéraires de ce roman, pratiquement tout le monde dit « Oui, au fond, c'est une histoire assez banale. » C'est vrai, mais on peut montrer avec une analyse sémantique que c'est un grand artiste. Cette banalité, il réussit à la raconter d'une façon extrêmement artistique. Une bonne partie des nouvelles de la Renaissance, une bonne partie des romans du XIXe siècle se base sur ce schéma-là. Ce qui nous laisse comprendre très vite le schéma de base pour comprendre le texte d'une façon plus rapide. La même chose vaut pour les films, d'ailleurs. Les films sont construits de cette façon-là. Nous avons de nouveau, alors, une sémantique très référentielle, très réelle. Seulement, pour terminer, vous pourrez vous me demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec les contes de fées ? Ils ne correspondent à aucune réalité, non? Vous avez au point 11, j'ai mis la liste des états de choses du fameux conte de Perrault, de Cendrillon. Il s'agit de 51 moments narratifs, disons, et il n'est pas, pratiquement pas possible de les insérer, de les mettre dans un schéma d'action normal, banal. Ça ne marche pas. Et Perrault le savait. Alors Perrault, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté 2 moralités. Et il a essayé de, pratiquement, selon moi, de contraindre ce texte d'entrer dans une argumentation, dans une induction. Qui a bonne grâce peut tout, qui n'a pas de bonne grâce ne peut rien. Cendrillon a bonne grâce, elle épouse le fils du roi. Les sœurs qui n'ont pas de bonne grâce n'ont pas le sort d'être choisies par le roi. C'est une moralité. Seulement, si on essaie d'expliquer d'une façon morale un conte de fées de ce genre, on se demande, oui, mais à quoi bon apparaissent tous ces phénomènes très étranges, une marraine qui est une fée, une citrouille qui se transforme en carrosse, une pantoufle ou des pantoufles qui sont de verre, mais à quoi bon tout ça? Alors, cette sémantique que je propose de type référentiel ne marche pas. Elle fonctionne. Seulement, il faut comprendre ce qu'il y a derrière ces contes de fées. Vous avez à la page 3, à la fin, Un autre schéma narratif. Départ de la maison familiale à un certain âge, passage d'une frontière en se rendant à un lieu dont l'accès n'est permis qu'aux initiés, aux initiants, isolement de l'initiant dans un lieu déterminé au bois, application de pratiques rituelles par les initiateurs, on prend des drogues, il y a le marquage par mutilation, etc., la circoncision, apprentissage et exercice dans l'au-delà, dans l'autre monde, retour dans la vie d'ici-bas comme nouveau-né, accueil cérémoniel dans la vie d'ici-bas, éventuel mariage. C'est un schéma typiquement rituel, des rites d'initiation, des rites très réels, pas seulement à l'époque de Perrault, pas seulement chez les tribus archaïques, même chez nous encore, d'une façon très transformée. Et si on regarde alors, si on reprend la sémantique d'un conte de fées comme Cendrillon, on voit que la base sémantique, ce n'est pas, ce ne sont pas les 31 fonctions de propre, ce n'est pas la sémantique structurale de Grémas qui vient de propre, c'est une sémantique très réelle qui a comme base le rite d'initiation. Cendrillon, elle départ, il y a un départ, oui, parce qu'elle a une nouvelle belle-mère. Elle vient, elle est isolée par la belle-mère, elle doit dormir dans le grenier. On lui applique des pratiques rituelles, oui, elle est chargée des plus viles occupations. Elle s'assoit dans les cendres, reçoit des pantoufles de verre. Les initiés étaient couverts de cendres pour indiquer qu'ils étaient morts comme non-initiés. Après, on les lavait et on trouvait qu'ils étaient des nouveaux-nés pour la nouvelle vie. Apprentissage, oui, Cendrillon habille, coiffe et conseille les sœurs. Il y a un retour, Cendrillon est reconnue, elle reçoit de nouveaux habits et est menée à la cour. Et après, le jeune prince épouse Cendrillon. C'est-à-dire, même pour des contes fées qui paraissent très peu réalistes, mais ils le sont en fait, on peut trouver toujours une explicitation et par cela une explication sémantique de type réaliste. Et je me permets de finir ici en disant que j'essayais de falsifier une affirmation de Roland Barthes dans son introduction à l'analyse structurale des récits, où il se demandait où donc chercher la structure du récit. Elle donnait comme réponse, dans les récits sans doute, dans mon exposé ici, j'ai essayé de falsifier cette opinion et de démontrer que même dans les contes fées, ce qu'il y a, c'est une sémantique très réelle qui se trouve au dehors du texte, dans les rites d'initiation. Merci pour votre attention.